Marge, j'ai trouvé un bidule pour qu'on entende ma voix dans la radio.
Bravo, Homer. Alors laisse un message.
D'accord, mais je sais pas quoi dire. Alors salut.
Oui, salut, c'est Nesrine. Je voulais juste donner mon avis sur les Simpsons. Ce que j'ai adoré dans cette série, c'est la double lecture, aussi bien pour un adulte que pour un enfant. Donc des visions, on peut regarder de façon différente ces espèces de dessins animés. Et puis surtout le parti pris, notamment politiquement, des réalisateurs. Voilà, c'est le premier dessin animé en série super gonflé à ce niveau-là. Et surtout, un petit salut à mon personnage préféré, qui est Maggie avec sa totoche. Voilà, salut.
Oh, punaise, un épisode sur les Simpsons.
Voilà, voilà comment les Simpsons ont ruiné ma vie et que je me traîne un carton de 30 VHS constitué que d'épisodes que j'enregistrais à chaque passage pour me les mater en boucle et dont je connais la plupart des saisons par cœur. Bonne journée.
Salut Blockbuster, bon bah ça fait bien plaisir de vous retrouver cette année encore. Mon seul problème c'est que ça met en lumière la différence de culture entre ma compagne et moi. Alors du coup le soir quand je rentre, je suis tout emballé par l'émission où je commence à raconter à ma compagne, bah c'est un mur d'incrédulité, voire d'incompréhension. Enfin bon, heureusement il y a des potes qui écoutent aussi et puis vivement lundi pour la prochaine. Merci Blockbuster, ciao.
To be or not to be, not to be.
Avoir du succès, ça ne suffit pas. Tu peux être plébiscité par le grand public et être éternellement boudé par les critiques. Alors pourquoi ? J'en sais fichtrement rien. Parce qu'après tout, si une majorité de gens y trouvent son compte dans une comédie un peu grasse ou un album hyper produit et marketé, c'est peut-être que l'œuvre en question n'est pas totalement dénuée d'intérêt. À moins évidemment de partir du principe que le grand public est automatiquement un conglomérat d'abrutis qui ne saurait pas distinguer une barquette surgelée remplie d'OGM d'un savoureux plat cuisiné par un grand chef. Mais quel orgueil pour celui ou celle qui pense ainsi. Non. Avoir du succès ne suffit pas pour entrer dans l'histoire. Il faut être validé par les gardiens autoproclamés du temple du bon goût. Coluche par exemple. C'était un excellent acteur, mais il aura fallu attendre Ciao Pantin pour que les professionnels de la profession le reconnaissent. Gérard Depardieu était tout aussi talentueux dans La Chèvre ou Les Compères qu'il ne l'a été dans Cyrano de Bergerac. Et pourtant, Steven Spielberg, on l'a dit ici même, aura dû attendre la liste de Schindler pour jouir de la reconnaissance de ses pairs. Pourtant, il est une exception. Il est un réalisateur qui semble être imperméable à ce diktat du fond qui devrait toujours primer sur la forme. Un réalisateur qui, depuis ses débuts dans un cinéma bis aux côtés de Roger Corman, ne semble jamais avoir dévié de son ambition initiale de faire des films de fous qui allient innovation technologique, sens du grand spectacle et succès public phénoménal. Un réalisateur qui, avec une filmographie finalement assez mince au regard de son succès et surtout de son rayonnement, je veux bien entendu parler de James Cameron.
France Inter. Blockbuster.
Juste ici, ça va.
Frédéric Siglist.
Pourquoi moi ? J'ai rien fait.
Non, mais tu vas le faire. Et de ta vie dépend notre avenir.
Je comprends rien. Mais comment ce type peut-il se relever ? Vous l'avez tué.
C'est pas un homme. C'est une machine. Le Terminator. Créature cybernétique modèle 001.
Une machine ? Comme un robot ?
Pas un robot. Un cyborg. Le Terminator est programmé pour s'infiltrer et tuer moitié homme, moitié machine. Son squelette est un mécanisme de combat hyper sophistiqué, mu par une chaîne de microprocesseurs, invulnérable et indestructible, mais entièrement recouvert de tissu humain. Chair, peau, sang, il est comme un être humain. Il transpire, parle même comme toi et moi. On s'y tromperait.
J'ai peut-être l'air stupide, mais des êtres comme ça, ça n'existe pas encore.
C'est vrai. Pas avant 40 ans.
Tu veux dire qu'ils existeront dans le futur ?
Dans un futur qui dépend de toi.
Tu vas aussi prétendre que tu es un homme du futur.
Exact.
Oh, laisse-moi m'en aller.
Écoute, et essaie de comprendre que le Terminator veut te tuer. Tu ne peux pas lui échapper. Il est programmé pour ça. Il ne connaît pas la pitié, ni les remords, ni la peur. Et rien au monde ne peut l'arrêter. Et il est ici pour te tuer.
James Cameron, c'est entre autres Terminator 1 et 2, Aliens, Abyss, Titanic et Avatar. Un réalisateur qui truste à lui seul les premières places du box-office mondial, tout film confondu. Technicien de génie qui a repoussé sans cesse les limites de ce qu'on pouvait montrer sur un grand écran. Metteur en scène de talent qui a composé certaines des séquences de cinéma d'action les plus impressionnantes de ces 40 dernières années. Sarah Connor, Ellen Ripley, Neytiri ou Rose dans Titanic. Autant de rôles de femmes fortes popularisés par le cinéma de Cameron. Pour autant, est-ce que James Cameron est un réalisateur féministe? Alors pour répondre à cette épineuse question et d'autres et évoquer la carrière de ce réalisateur atypique, j'ai à mes côtés toute une bande, on est nombreux aujourd'hui. Alors tout d'abord, Myriam Megaizerou, qui est rédactrice à Culture au Point, bonjour.
Bonjour tout le monde.
Je suis ravi de vous avoir avec nous. Jean-Baptiste Toussaint, qui a fondé la chaîne YouTube Tales from Brooklyn.
Bonjour à tous.
Bonjour. Nico Pratt, qu'on ne présente plus, donc on va arrêter de le faire. Voilà, Nico Pratt de Rokirama, bonjour.
Bonjour.
Et François Barge-Prieur et Thomas Fouet, des fiches du cinéma.com. Bonjour les gars.
Bonjour.
Alors ensemble, on va retracer le parcours de James Cameron, de ses premiers films à ses films, ses nombreux films Avatar qu'il a dans ses paniers, qui prend décidément beaucoup de temps. Hein. On tâchera d'identifier ce qui caractérise le style de James Cameron, ses obsessions, on essaiera de comprendre les raisons de son succès. Et à l'ère de l'hégémonie Disney sur le box-office, James Cameron est-il encore pertinent? Bref, à l'instar du T-800, est-ce que James Cameron will be back?
Ma maman disait que ça n'existait pas, les monstres, que c'était pour rire, mais il y en a.
Oui, il y en a, ça existe.
Alors pourquoi l'écran, ils disent ça?
Parce que d'habitude, c'est vrai.
Je comprends pas, elle en avait un dans le corps?
Mais je n'en sais rien, Newt. Je te le jure.
C'est comme ça que les bébés arrivent? Dis-moi, pour les vrais bébés, ils poussent dans ton ventre?
Non. Non, c'est très différent. Tiens, mets ça. Ça porte bonheur. Dors bien?
Reste encore, s'il te plaît.
Mais non, je ne pars pas, je serai juste à côté. Jamais je ne te laisserai, Newt. Je te le promets.
Tu promets, hein?
Croix de bois, croix de fer.
Si tu mens, tu iras en enfer.
Si je mens, j'irai en enfer. Maintenant, il faut dormir. Et pas de rêve du tout. Coquine.
Jean-Baptiste Toussaint, est-ce que vous pouvez nous présenter qui est James Cameron?
Alors, finalement, la vie de James Cameron pourrait être un film. Et en l'occurrence, Over the Top au départ, sans les bras de fer, puisque lorsqu'il a commencé, il était routier, James Cameron. Il était routier, et c'est en regardant Star Wars pour la première fois qu'il a décidé d'être réalisateur. Et c'est assez drôle parce que son premier court-métrage, qui s'appelait Xenogenesis, il l'a construit grâce à un consortium de dentistes.
De dentistes.
Voilà, qui ont réuni 20 000 dollars pour qu'il puisse faire son film. Et ça lui a permis après d'être monteur, maquettiste superviseur d'effets spéciaux sur plusieurs films. Et après, la légende a commencé avec Piranha 2. Je ne sais pas si on va en parler ici.
Ah ben on peut en parler.
En fait, de base, c'était assez drôle parce que il avait travaillé sur un film qui s'appelait La Galaxie de la Terreur. Et il était superviseur des effets spéciaux sur ce film-là. Et un jour, il devait réaliser une séquence où, en gros, on voyait un bras se faire bouffer par des vers de terre. Et les producteurs étaient là ce jour-là, et lui, il avait eu l'idée assez maligne de mettre une sorte de câble électrique sur le bras, ce qui faisait gigoter les vers de terre. Et quand les producteurs ont vu ça, ils se sont dit, ce mec-là, il va faire jouer même des vers de terre. Il est très impressionnant. Du coup, ils lui ont donné Piranha 2. Après, ça s'est très mal passé parce qu'il a eu des problèmes avec le producteur. Du coup, le film lui a été un peu retiré. Il renie un peu ce film. D'ailleurs, il a toujours estimé que son premier film était Terminator.
Oui, il était plus diplomate avec les vers de terre qu'avec, a priori, ses patrons ou avec les acteurs. Mais en effet, ouais, ça a commencé comme ça. Avant même Star Wars, d'ailleurs, il y avait eu 2001, l'Odyssée de l'espace. Il le raconte, qui a été, pour le coup, son premier vrai grand choc de cinéma. Et ce qui est marrant, c'est qu'il le dit aussi, quand il a vu Star Wars, la première chose qu'il s'est dit, il s'est pas dit c'est fantastique, je veux en voir plus. Il était dégoûté, persuadé que George Lucas, en fait, lui avait grillé la priorité en quelque sorte. Et il a toujours cru, parce qu'il a toujours cru, en fait, en son destin de réalisateur. Et en effet, du jour au lendemain, il a quitté son boulot de routier pour aller faire Xenogenesis, qui à la base était, en fait, un court-métrage qui était censé être vendu par la suite à des investisseurs pour un projet de long métrage. Finalement, il y a plein d'idées de Xenogenesis qu'on retrouvera dans d'autres films, dont Avatar. Enfin, on aura l'occasion d'en parler. Toute la carrière de James Cameron, elle est faite de beaucoup d'idées recyclées entre guillemets. Mais voilà, c'est avec 2001 et en effet Star Wars que que le cinéaste s'est éveillé en quelque sorte.
Et d'ailleurs, tu parlais d'idées recyclées. Il faut savoir qu'il a, peu de gens le savent, mais il faut savoir qu'il a participé et qu'il a aussi écrit le scénario de Rambo 2. Mm-hmm. Après, Stallone a repris les choses en main. Mais plusieurs de ces idées qui avaient été refusées pour Rambo 2 étaient utilisées dans Avatar, dans Terminator, etc.
Quand on repense à Rambo 2, je ne sais pas si on peut dire que Sylvester Stallone a repris les choses en main.
Il n'était pas d'accord avec le script de Cameron.
Cameron a toujours dit l'action est de moi, la politique est de Stallone.
Voilà.
D'accord. Et alors, il y a aussi un passage dont on n'a pas parlé, c'est son apprentissage aux côtés de John Carpenter sur New York 1997. C'est quand même pas rien, parce que c'est aussi un film culte.
Absolument, c'est la seule fois d'ailleurs, au final c'est la seule fois où ils ont bossé ensemble. Il y avait eu pour la suite du film, il y avait eu plus ou moins un projet de collaboration avec Digital Domain pour les effets spéciaux. Digital Domain qui était donc la compagnie d'effets spéciaux de James Cameron. Et en effet, Carpenter, donc évidemment la légende, lui c'était un de ses rêves et c'était une de ses idoles. Donc en effet, il a commencé, il a fait ses armes entre autres aux côtés de John Carpenter.
D'accord. Et alors la genèse de Terminator, j'ai lu, mais peut-être que je me trompe, que il a eu cette genèse à Rome justement après l'échec et le vol un petit peu de Piranha 2.
Exactement. Ce jour-là, il était très malade et c'est une nuit durant une grosse fièvre qu'il a fait ce cauchemar d'un squelette sortant des flammes. Et il a écrit après Terminator très rapidement grâce à ce cauchemar. Moi personnellement, je fais des cauchemars très nuls qui m'empêchent d'écrire des films. Ça m'arrive jamais, mais lui, ça lui arrive.
Alors maintenant, on va faire une petite pause musicale. On va écouter évidemment You Could Be Mine des Guns N' Roses, qui est aussi la bande son des films Terminator 2 et du très dispensable Terminator Renaissance. J'en profite pour vous dire que cette émission a été préparée par Céline Hila à la réalisation, Marie Mougin et Chloé Brassière à la préparation de l'émission, aidée de Prudence Castello. La programmation musicale est signée Thierry T800 Dupin et à la technique aujourd'hui, Gilles Gaillard et Ronan Mahé. C'était You Could Be Mine des Guns N' Roses. Vous êtes toujours dans Blockbuster sur France Inter.
Pat, réveille-toi.
Nom de Dieu tout puissant.
On dirait que tu lui plais.
Il essaie de communiquer. C'est merveilleux.
C'est moi.
Qu'est-ce que c'est?
C'est vivant.
De l'eau de mer.
C'est pas possible que ce soit seulement l'eau de mer.
Ils ont dû apprendre à contrôler l'eau. Je veux dire, au niveau moléculaire. Vous savez, ils peuvent la modeler, la polymériser, ils peuvent en faire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent la mettre sous contrôle de l'intelligence.
Attention, qui que vous soyez, attention.
Blockbuster.
Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
Frédéric Sigrist.
Sans blague. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza?
Sur France Inter.
Myriam Megaï Zerou, à quelle époque vous avez découvert votre premier James Cameron?
Très tard, moi j'ai découvert après la sortie de Titanic, deux ans après la sortie du film, en 2011. C'est un film que je refusais de voir parce que à cette époque-là, je ne regardais pas les blockbusters par principe. Et adolescente, quand Terminator est sorti, quand Alien est sorti, je n'ai pas regardé Terminator ni Alien, voilà, par principe, parce que j'étais là, oui, les films d'auteur, etc. Donc je découvre deux ans après la sortie.
Je connais encore beaucoup de personnes qui fonctionnent comme ça.
Et oui, mais c'est un tort, parce que quand j'ai découvert...
Et Cameron est un peu le représentant justement de cette injustice. Entre guillemets.
Et absolument, et plein d'autres hein, d'ailleurs, Ridley Scott, enfin il y a de nombreux cinéastes comme ça. Et quand j'ai découvert Titanic, j'ai trouvé véritablement que c'était un beau film et non pas le mélodrame auquel je m'attendais, le mélodrame à gros budget, etc., enfin pharaonique. Donc je découvre ce film et à ce moment-là, je veux voir Terminator, je veux voir Alien et je suis subjuguée par la prestation de Linda Hamilton dans Terminator 2. Et surtout, ce qui me fascine aussi, c'est que c'est l'univers de James Cameron, un univers qui est au fond teinté de désespoir, où c'est toujours la destructivité qui est à l'œuvre, la pulsion de mort, que ce soit face aux éléments naturels, comme dans Titanic, ou surnaturels, et là, ce sont tous les films de science-fiction, ou bien la destructivité humaine. Quoi. Il y a une critique sociale dans les films de James Cameron, qui est, alors, qui n'est pas son message initial, hein. Lui, ce qu'il veut faire, c'est du divertissement, ce sont des films à gros budget, et puis des effets spéciaux. C'est quand même le cinéaste des effets spéciaux.
C'est le cinéaste de la démesure.
De la démesure, et vraiment, il met le paquet, il entraîne avec lui des sociétés de production qui parfois sont ennemies, enfin bref, il arrive à emmener dans son sillon un grand nombre de personnes et une débauche de moyens. Et au fond de cela, il y a ce message social, ce message politique, une critique qui pointe à chaque film. Alors parfois, c'est assez stéréotypé. Hein, dans Avatar, la question écologique, elle peut être relativement stéréotypée et même elle subit un traitement, je veux dire, dans le scénario relativement décevant, eu égard à la complexité des effets spéciaux qui est réalisé. On a vraiment un film qui est magnifique visuellement, avec un scénario un petit peu stéréotypé.
Mais alors ça, il l'avait voulu, il l'avait toujours dit, pour imposer cette nouvelle vision du cinéma aux spectateurs, il fallait une histoire que le public connaisse. Donc en gros, c'est l'histoire de Pocahontas. Et il l'a toujours assumé, il a dit, il fallait que mon scénario soit simple, parce qu'il y avait une telle débauche visuelle et un tel renouveau du cinéma à imposer que on pouvait pas faire trop compliqué non plus. D'accord. Il l'avait toujours dit.
Ouais, mais dans voilà, c'est quand même plus abouti dans Terminator 2. Je trouve que le scénario vraiment est bien plus nourri. Et donc c'est ça moi qui m'a intéressée. C'était sa vision, sa propre vision. Je pense que dans cette destructivité, il s'impose des sauveurs, voilà, des figures de sauveurs et de sauveuses d'ailleurs. On en parlera peut-être.
Thomas Fouet.
Oui, alors avant d'évoquer mon propre rapport à James Cameron et la façon dont j'en suis venu à découvrir son cinéma, je voulais simplement revenir sur cette idée selon laquelle James Cameron serait le cinéaste de la débauche des moyens. Alors effectivement, il y a la légende James Cameron qui, dès Aliens, a commencé à croître, c'est-à-dire que c'est celui dont les budgets connaissent une inflation galopante systématiquement à chaque nouveau projet. Et paradoxalement, je pense que c'est un cinéaste qui, à l'échelle des histoires qu'il veut raconter et à l'échelle des univers qu'il a l'ambition de mettre sur pied, procède plutôt à l'économie, c'est-à-dire que À l'époque où Titanic sort, à quelques mois d'intervalle, il y a un film qui sera le deuxième affreux Batman réalisé par Joel Schumacher qui sort. Je ne sais pas comment les studios présentent leurs fiches comptables et déclarent objectivement quel est le budget de tel ou tel film, parce qu'évidemment il y a beaucoup de cordons sur lesquels jouer, sur lesquels communiquer. Mais à l'époque, tout le monde se gausse du budget délirant de Titanic et personne n'évoque celui du film de Joel Schumacher qui, pour un budget sensiblement semblable, va réaliser une véritable purge. Et moi, c'est une chose dont j'ai eu l'intuition, j'étais peut-être pas en mesure de le formuler à l'époque parce que j'étais encore jeune, mais quand j'ai vu en deux temps, du coup, Terminator 2 et puis quelques années plus tard Titanic, c'est qu'il y a quelque chose de passionnant chez Cameron, c'est que c'est l'alliage, sa faculté à allier des structures, des schémas de narration infiniment classiques, ce qui en fait un point d'accroche très fort avec le public, et tu en parlais très justement, et puis en même temps cette idée d'un cinéma qui serait constamment à révolutionner, à upgrader, et qui à mon avis fait tout le sel jusqu'à Avatar de son cinéma.
Alors, James Cameron a réalisé certains des films les plus vus ces dernières années, hein. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça. Et Chloé Brassière, notre machine Terminator à nous, hein, qui sort de la Japan Expo pour ensuite aller poser des questions aux gens dans la rue, comme ça, hein, à ces habitants de notre belle planète bleue, est allée les voir pour leur demander ce qu'il leur en restait.
James Cameron, c'est un peu une marque de fabrique. C'est-à-dire que quand il y a James Cameron, on se dit que ça va être un film vraiment bien.
Ah, ce sont des films qui sont extrêmement puissants.
Ça ne déplaît pas. Je reconnais la qualité, surtout à Avatar. J'ai préféré Avatar d'ailleurs que Titanic.
C'est une belle histoire quand même. C'est original. C'est inspiré d'une histoire vraie. Avec les histoires d'amour et tout, c'est intéressant et c'est passionnant.
C'est beaucoup trop long, Titanic.
Bah, Titanic, en vrai, moi, je trouve que l'histoire est vraiment belle. Après, je le reverrai pas 36 fois, mais voilà, c'est un beau film, il faut le voir.
J'ai vu Terminator, et ça, pour le coup, j'ai bien aimé. Enfin, c'est plus mon genre de film, mais après, j'en ai vu qu'un. Enfin, j'ai vu juste le premier.
Moi, j'ai beaucoup aimé Alien. Ça me rappelle toute la série des Aliens. C'était quand même... J'ai des gros souvenirs là-dessus.
C'est pas un de mes réalisateurs préférés, mais il sait très bien faire gérer un film et son budget, etc.
C'est très très bien fait, c'est très très graphique, très très beau, j'aime beaucoup.
Mon père et mon frère sont fans, du coup, où je regarde, bah, ça va, je suis fan, mais sans plus.
Avatar, bah, franchement, j'ai adoré, je suis fan de science-fiction, du coup, l'histoire comme ça, enfin, ce genre d'histoire, j'adore.
En fait, je trouve ça dommage que l'histoire soit aussi simple, enfin, c'est un peu Pocahontas, quoi, mais les images sont vraiment belles, mais je trouve ça dommage qu'ils aient pas fait un scénario un peu plus élaboré, quoi.
Bah, c'était la première fois que j'ai vu un film en 3D au cinéma. Donc c'était vraiment, enfin, toutes les couleurs et tout. Et quand on regarde aujourd'hui, par rapport au film d'aujourd'hui, c'est toujours les mêmes spéciaux alors que c'était en 2010. Et franchement, c'est top.
Alors, je vous rappelle que vous pouvez tout l'été, enfin surtout tout le mois de juillet, via notre répondeur, nous laisser un message au 01 56 40 30 20. Je répète, 01 56 40 30 20 sur le sujet du jour, c'est-à-dire James Cameron, ou sur Blockbuster, ou même revenir sur des podcasts qui ont été déjà diffusés. N'hésitez pas, c'est aussi votre émission. François Barge-Prieur,
oui.
J'aimerais qu'on parle ensemble du style de James Cameron qui a évolué au fil des ans. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ben, je trouve que justement, on est en train un peu d'arriver à une limite. Spielberg annonçait en 2013 dans une conférence la fin du blockbuster, la fin prochaine du blockbuster, qu'elle est un peu implosée de lui-même. Et je pense que là, pour avoir revu Avatar tout récemment, plus Cameron va chercher à faire une débauche de moyens et à se perfectionner et va centrer sa réflexion sur la technique, là où il est très performant, il faut savoir que c'est un ingénieur à la base, plus il va faire ça, plus il va avancer dans ce sens, plus sa mise en scène va devenir impersonnelle. Et je trouve que ça se voit vraiment dans Avatar, c'est quand on veut composer une image en 4K ou je ne sais combien de K et qu'on veut mettre 1000 petits insectes qui fourmillent, des lumières dans tous les sens, etc., on n'a quasiment plus le droit qu'au plan large ou alors d'un coup au plan immersif parce qu'on fait de la 3D. Et je trouve que finalement sa mise en scène commence à être dictée par les moyens qu'il utilise, là où à l'époque, avec des moyens beaucoup plus restreints, il arrivait à avoir une patte plus personnelle.
Je vais peut-être vous choquer. Alors, au risque de vous choquer, on parlait sur ces mêmes ondes la semaine dernière du cinéma de Spielberg. Je pense qu'il y a chez Spielberg une faculté à faire naître des visions distinctives, singulières, qui n'appartiennent qu'à lui. Je suis pas sûr que James Cameron, et c'est ce que j'aime chez lui aussi paradoxalement, soit un metteur en scène au sens où l'est Spielberg. C'est-à-dire qu'il y a une forme de fonctionnalité dans la mise en scène de Cameron, très tôt, dès Terminator par exemple, une façon de se mettre au service du récit. Ce qui est frappant, alors effectivement tu en parlais François, comme d'un ingénieur, c'est quelqu'un qui a différentes aptitudes, qui a travaillé effectivement dans les effets spéciaux, qui est capable de peindre, de dessiner, les visions, qui est capable de les coucher lui-même sur le papier, qui est un excellent cadreur, qui est un excellent monteur. Et sur cette dimension-là du montage, pour revenir encore une fois, c'est une fixation, mais sur Spielberg, il y a des films de Spielberg dans lesquels il y a des séquences, des passages, des visions, des fulgurances absolument incroyables, mais quelquefois on est tenté de vouloir couper 10, 15, 20 minutes. Chez Cameron, ça n'est pas le cas. Il y a une sorte de fonctionnalité à tous les niveaux, c'est-à-dire de l'écriture au montage en passant par la mise en scène, une façon de se mettre au service du récit qui fait que, quelle que soit la version, parce qu'il y a différents films de Cameron qui ont connu des versions courtes, des versions longues, des director's cut, quelle que soit la version, on a systématiquement l'impression qu'il n'y a jamais un plan ou une péripétie en trop, ni un plan ou une péripétie qui manque. Je pense que c'est la grande force de Cameron.
Je nuancerai un peu, il y a quand même il y a un souffle épique hein, chez James Cameron avec des longues scènes de bataille qui n'en finissent pas. C'est un cinéma guerrier, ce sont des films de guerre.
Et c'est un cinéaste virtuose, ça je ne le conteste pas.
Oui, mais il y a des longueurs.
Mais au service d'une forme de fonctionnalité,
je pense. Je crois que c'est plutôt sur les longueurs.
Oui, il y a des longueurs, il y a des longueurs dans Terminator 2, dans Alien, dans Avatar.
Non, il n'y a pas
les
scènes de
guerre.
C'est
mon film préféré de James Cameron. Et notamment parce que Linda Hamilton est absolument époustouflante.
Et Robert Patrick.
Mais sur Titanic, par exemple, est-ce que vous pensez à un plan, une séquence qui serait en trop? Alors non. Que c'est quand même un truc de 3 heures.
Peut-être pas sur Titanic.
Qui faisait très peur aux exploitants d'ailleurs à l'époque.
Jean-Baptiste,
comme tu le disais tout à l'heure, on ne s'ennuie pas devant les films de Cameron. Il faut savoir que c'est un type qui, quand il s'engage dans un projet, s'engage à fond. J'ai quelques anecdotes là-dessus. Par exemple, dans Abyss, c'est lui-même qui va filmer sous l'eau au point de presque mourir, parce qu'il a fait de l'eau qui est rentrée dans ses poumons. Dans Terminator 2, la fameuse scène de l'hélicoptère, c'est lui qui décide d'entrer dans l'hélicoptère, caméra à l'épaule pour aller filmer parce que les types voulaient pas le faire. Et c'est un type qui est détesté sur les tournages. Faut savoir qu'à la fin d'Aliens, les mecs de l'équipe technique portaient des t-shirts avec écrit « Je peux tout supporter, j'ai travaillé avec James Cameron ».
Mais enfin, tous ces films, je crois.
Tous ces films.
Sur Abyss
aussi.
Les comédiens se sont plaints.
Les comédiens. Ed Harris a dit qu'il voulait plus travailler avec lui. Même Kate Winslet, après Titanic, a dit que...
Mais c'est difficile d'être à la hauteur de l'exigence de James Cameron, qui s'est toujours envisagé, conçu. C'est d'ailleurs de cette façon-là qu'il est parodié dans un épisode assez chouette de South Park. C'est l'explorateur, c'est-à-dire l'explorateur de monde qui généralement se dérobe au regard des hommes, celui des abysses. On est évidemment sur Abyss et puis sur Titanic, parce que la source du film, c'est quand même ça. Et puis l'explorateur de monde qu'il a lui-même mis sur pied. Et là, évidemment, il est plutôt du côté d'Avatar. Mais c'est difficile, même du côté des équipes techniques, des équipes artistiques, de se mettre au niveau, au degré d'exigence de James Cameron, qui est un fou furieux, effectivement.
Et alors, j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit François Babarche-Prieur tout à l'heure sur la fin annoncée du blockbuster. Spielberg en a parlé. James Cameron n'est pas non plus avare en termes de petites critiques, de piques sur les blockbusters contemporains, c'est-à-dire les films de Marvel, les films de super-héros. Et je trouve ça quand même assez paradoxal que des gens qui ont créé quand même des franchises, parce que James Cameron, il a aussi produit les Terminator qui ont suivi, ou Spielberg qui a produit aussi de Transformers, le premier, soit aujourd'hui aussi critiques d'un système qu'ils ont eux-mêmes instauré. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de petite jalousie de voir des nouveaux challengers
On est très loin chez Spielberg et chez Cameron de la grande entreprise de cooptation du public qu'aura été Marvel ces 10 ou 15 dernières années. C'est-à-dire cette idée selon laquelle chaque film n'est là que comme le rappel, la séquelle ou le teaser du précédent, dans cette sorte d'insatisfaction perpétuelle qu'a orchestré Marvel et qu'essaie d'orchestrer avec moins de succès DC Comics. On est beaucoup moins dans le champ d'activité de Cameron et de Spielberg, je pense.
Myriam.
Et puis il prépare, James Cameron, 4 suites d'Avatar, hein, alors il y en a un qui est prévu pour 2020, mais ça va jusqu'à 2025, quoi.
Mais il prend le temps, il tourne tout en même temps.
Il tourne le 2 et le 3 en même temps, et le 4 et le 5, qui a priori serait peut-être une préquelle en deux parties, dépendront des succès.
Là, je sais qu'on a perdu tous les auditeurs, là.
Pardon,
j'ai un AVC.
Avatar 2 en 2020, voilà.
Vous écoutez France Inter, il est 11h35 et c'est l'heure des chiffres. On adore les chiffres. Je vous donne des chiffres et vous me dites à quoi ça correspond. Si je vous dis le chiffre 3, c'est le nombre de fois où James Cameron et l'acteur Michael Biehn ont collaboré. C'est le nombre de films que composera la saga Avatar. Ou en milliers, le nombre de mots que comprend le dialecte des Avatars des Navy créés pour le film.
Eh bien,
numéro 1. Numéro 1.
Michael Biehn.
La 1 fonctionne, mais est-ce qu'il y a plusieurs réponses ou pas possible?
Non, il n'y en a qu'une là.
C'est la
1 alors.
Eh bien oui, c'est le nombre de fois où il a collaboré avec Michael Biehn. Voilà, cet acteur que je regrettais éternellement de ne pas avoir vu interpréter Cyclope dans X-Men. Voilà, c'était juste pour voir.
Là, il y a des scènes dans Terminator 2 qui ont été coupées, Michael Biehn.
Absolument.
Oui, il apparaît en caméo.
Il aurait pu être
dans un rêve où il s'adressait à Linda Hamilton qui était dans l'asile, si je me souviens bien. Si je vous dis le chiffre 17, c'est le nombre de phrases prononcées par Arnold Schwarzenegger dans Terminator. C'est le nombre de nominations totalisées par Titanic aux Oscars. En 98.
Non, ça devait être 15.
C'est
le nombre de phrases prononcées par Arnold Schwarzenegger.
Oui. Titanic, c'est quoi? C'est 15 nominations et 11 Oscars.
Et dans le 2, dans le Terminator 2, il ne prononce que 7 phrases.
Je crois que les seuls qui ont réussi à égaler le record de Titanic, c'est Ben-Hur, je crois.
Oui, c'est ça. Ouais, c'est Ben-Hur et Titanic. Quoi. Et le Retour du Roi, non?
Oui, le Retour du Roi. Le Retour du Roi. Dont on parlera. Je fais du teasing.
La prochaine émission.
Voilà.
Très bon.
Alors 7, c'est en centaines le nombre de survivants du naufrage de Titanic ou en centaines le nombre de personnes ayant participé à la confection d'Avatar.
Avatar, ils sont beaucoup plus de 700, ils sont 7000, ils sont.
Eh bien non, c'est le nombre de survivants du naufrage du Titanic.
Faut toujours dire
705 survivants.
Est-ce que ça compte les chiens? Il y avait des chiens.
Ah oui, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs. Oui, 700 personnes travaillant sur Avatar, c'est juste
invraisemblable. Thomas, je suis ceinture noire de mauvaise foi. Non, c'est très bien joué. C'est tout le monde l'a vu là, Thomas. Tout le monde l'a vu. Si je vous dis le chiffre 13, c'est le nombre de fois que James Cameron peut regarder 2001 à l'Odyssée de l'espace d'affilée, le nombre de films qu'il a réalisé, ou l'âge auquel James Cameron a réalisé son premier court-métrage, Xenogenesis.
La une aussi encore?
Non.
Je dirais la deux.
Xenogenesis, il avait pas 13 ans. Il a fait 13 films?
Moi, je vote 2. Bah oui, parce qu'il a fait beaucoup de documentaires. Faut savoir que là, depuis une dizaine d'années, il fait beaucoup de documentaires sur les fonds marins, les volcans.
C'est une bonne réponse de François Barthes.
Est-ce que vous comptez l'attraction Disneyland T2 3D dans les 13?
Non.
Ah, donc c'est pas ça.
Je déteste ce jeu. Allez, on écoute la chanteuse française Clara Luciani chanter La Baie de Clara Luciani. Le titre est tiré de son tout premier album Sainte Victoire, qui est sorti en avril dernier sur le label Initial. Et cette chanson est une reprise de The Baie de Metronomy.
C'est un pont perdu sur l'Atlantique. C'est exotique, c'est un grand secret sous les palmiers, c'est fantastique. Je pourrais te montrer, pour y aller c'est très facile. Ferme les yeux et laisse le centre mêler tes cils. Déjà, nous y voilà, bienvenue sur la terre. Ce n'est pas Paris, et ce n'est pas Londres.
C'était la B de Clara Luciani. Alors elle va courir les festivals tout l'été. Vous pourrez notamment l'écouter ce vendredi au Francopholis de La Rochelle et dimanche pour le festival Chauffé dans la noirceur à Montmartin dans la Manche.
Rose, vous n'êtes pas un cadeau. C'est vrai, vous êtes une petite fille pourrie gâtée. Mais à l'intérieur, vous êtes la plus époustouflante, la plus incroyable, la plus merveilleuse fille, femme que j'ai jamais connue. Je ne suis pas un idiot. Je sais comment marche le monde. Je n'ai que 10 pièces dans ma poche. Je n'ai rien à vous offrir et je sais très bien. Je le comprends. Mais je suis trop impliquée maintenant. Vous sautez, je saute. Vous vous souvenez? Je ne m'en irai que lorsque je serai sûre que vous allez bien. Vous comprenez? C'est tout ce que je veux.
Ah, ce thème. Évidemment, on ne peut pas parler de Titanic sans évoquer...
Qu'est-ce qu'on a galoché sur ce...
Ah
sur
oui, alors Nico Pratt peut-être. Ouais, ben, moi j'aurais bien juste aimé.
Moi c'était l'époque.
Voilà, Céline Dion, My Heart Will Go On, etc. Alors parlons un petit peu de Titanic, qui est quand même une œuvre majeure dans la carrière de James Cameron. Qui veut aborder ce tournage pharaonique?
Par où l'aborder déjà? Ouais non, enfin il y a tellement de choses, à dire.
C'est trop gros pour nous.
Déjà, mais c'est en effet un de ses plus gros. Encore une fois, on n'a pas des défis techniques de James Cameron. Après True Lies, c'est un film qui arrive après True Lies, qui était en quelque sorte une récréation. C'est un film, c'est déjà un remake.
De la totale.
De la totale, exactement. C'est un film qui lui a été proposé par Schwarzenegger. C'est une comédie. D'ailleurs, la seule de toute la carrière de James Cameron. Il y a évidemment des images dingues. Mais voilà, en fait, Titanic arrive un petit peu après une récréation. Et on parlait de la démesure de James Cameron. Rien, je pense que c'est de loin son film le plus démesuré. Évidemment, Avatar a été un défi technique, mais là, il a quand même reconstruit le Titanic, une version qui était seulement 8 mètres plus courte que le vrai. Le temps de préparation, de fabrication
du Titanic. Et qui d'ailleurs a coûté aussi cher que le vrai Titanic.
En fait, c'est
aussi
le budget cher, total voilà, du film.
Exactement. C'est 3h15. D'ailleurs, sur les affiches, il y avait écrit 2h75 pour pas faire peur aux gens qui rentraient dans la salle. c'était prédit comme un nouveau fiasco. C'est un film, en plus, qui a passé énormément de semaines au numéro 1, mais qui n'a pas démarré comme les blockbusters d'aujourd'hui, c'est-à-dire en dévorant tout le monde sur son passage. C'est un film qui a grandi. C'est un film sur lequel il a refilé toutes ses parts de réalisateur pour le mener à bien. C'est le film le plus cher de l'époque. C'est voilà, il y a 1000 choses à dire sur ce film. C'est les 11 Oscars, évidemment.
Jean-Baptiste. Oui, et surtout ce qui participe à la démesure de ce film, ce sont ses explorations sous-marines. Il a plusieurs fois descendu pour aller voir le Titanic. Et à côté de ça aussi, pendant très longtemps, il avait le record de descente sous l'eau. James Cameron, c'est un véritable aventurier, plus qu'un cinéaste aussi.
Et en même temps, on ne peut pas cantonner Titanic à son inflation budgétaire,
c'est aussi
au service d'un projet
de
cinéma classique, intimiste. Au bout d'un moment, on se dit, au bout d'une heure et demie de film, ah bah oui, c'est vrai, tiens, il y a un bateau qui coule, en fait. C'est quelque chose qui peut nous sortir de la tête.
Alors même si James Cameron a pu, à l'instar de Jack, crier « Je suis le roi du monde », il ne faut pas oublier qu'en France, les rois, on les décapite. Et au masque et la plume, Cameron, bah, ils aiment pas.
Absolument consternant, mais enfin oui. Toute espèce de roman de gare viscontien visuellement, ce DiCaprio qui n'a aucun charisme, des méchants de mélodrame, mais sans premier, ni second, ni troisième degré, c'est vraiment, moi je trouve ça sans le moindre intérêt, l'intrigue première classe, troisième classe.
Ça a pourtant des rapports tout à fait nets avec les précédents films de James Cameron, c'est pas du tout un film en rupture avec ce qu'il avait fait jusqu'ici, c'est dans
si
la
lignée.
Si
c'est pas en rupture, c'est que les autres étaient pas si bien que je le pensais.
Et Aliens, encore pire, parce qu'il fait appel à soi-disant de la science-fiction. C'est pas du tout de la science-fiction. C'est peut-être de la science au sens où Cameron dit, bon, c'est la guerre comme chez vous, quoi. Vous allez voir, vous inquiétez pas, c'est les grenades que vous connaissez, c'est les bombes qui vous sont familières. C'est pas grave, ça explose, vous verrez. Bon, de toute façon, en Amérique, on est protégé.
Au milieu de tout ça, il y a quand même une mission humaine, bien sûr, parce qu'autrement, le film ne passerait pas. Donc, et c'est la belle Sigourney Weaver qui est censée faire un peu le pendant de Rambo dans le film, elle est très très ramboesque. Mais alors, quand on comprend le message, entre guillemets, idéologique du film, on est un peu consterné. Je veux dire que là, il est à la fois d'une évidence et d'un simplisme qui sont consternants, je trouve.
Ça les embête, hein.
Ah, François Barfinger, vous avez quelque chose à ajouter. Dès que c'est simple, c'est les embêtes, c'est ça?
Ouais, non, comme toujours vrai. À la ramasse.
Non, mais alors que Titanic, c'est quand même la beauté, c'est aussi d'assumer le premier degré. Enfin, je veux dire, je vois pas le problème. Enfin, la critique là sur le roman de gare, vraiment, c'est.
Et sur l'ambition supposément viscontienne, où est l'ambition viscontienne dans Titanic? Enfin,
il y a des lustres et des
reproches.
Qui tremblent,
c'est possible.
C'est
incompréhensible.
Nico Pratt, je crois que vous avez témoigné votre amour pour les critiques du Masque et la Plume.
Je les déteste tous.
Eh bien voilà, c'est ça, c'est clair. Eh bien, les voici, ils rentrent dans le studio. Voilà. Bonjour, Jean Mirza, tout ça. Alors, on a entendu parler du rôle de Sigourney Weaver et ça me permet de rebondir astucieusement sur le thème que j'aimerais qu'on développe ensemble, c'est les femmes dans le cinéma de James Cameron. Myriam, je crois que ça vous tient à cœur.
Oui, c'est une question qui est importante parce que James Cameron est assez ambigu dans sa position à l'égard des femmes. Elles sont, on est tous d'accord pour dire qu'elles sont très viriles, que ce sont des femmes, des guerrières, des combattantes. Ce sont des intellectuelles également. Alors ça, c'est par exemple dans Alien, c'est Ellen Ripley, dans Avatar, c'est le docteur Grace Augustine. Donc à chaque fois, ces deux rôles sont campés par Sigourney Weaver. Elles occupent une place de choix au même titre que les hommes. Elles conduisent, elles pilotent des hélicoptères, elles manient les armes. Enfin, on a, et y compris dans les seconds rôles d'ailleurs. Je pense à Vasquez, au colonel Vasquez dans Terminator, dans Aliens. Voilà, très bien.
Et avec cette fameuse phrase, est-ce qu'on t'a jamais pris pour un homme? Et elle répond, et toi?
Et toi? Ouais. Non. Et toi? Très bien. Enfin, donc, ce sont des femmes qui ont du répondant et qui s'imposent. Donc, alors. Physiquement, d'ailleurs, elles ont l'actrice qui a joué dans Linda Hamilton. Voilà.
Oui,
Linda Hamilton, elle a été entraînée par un commandant de l'armée israélienne pour le Terminator 2. Donc, elle revient avec une musculature qui est absolument impressionnante. Et elles ont aussi une façon de se tenir qui relève des codes de la virilité. Par exemple, quand elle tient sa cigarette au bec, et on revoit ça dans Avatar.
Dans Avatar,
quand Dr. Augustine arrive avec sa cigarette au bec et puis qu'elle tense comme ça Jack Sully, elle s'impose. Quoi. Ce sont des femmes, pour le dire un peu vulgairement, qui ont des couilles et qui les posent sur la table.
Alors là, on va recevoir encore de nombreux mails qui vont nous dire « Oui, comment ça? Mais les testicules ne sont pas les seuls moyens d'affirmer qu'on a du caractère. » Donc non. C'est vrai, je suis complètement d'accord avec vous, c'est juste une expression désuète que l'on utilise encore, mais qui n'a pas forcément de sens. Ne nous matraquez pas la tête, s'il vous plaît.
Non, enfin, ce que je veux dire, c'est que lui, il passe par ces stéréotypes-là. James Cameron passe par ces stéréotypes-là pour imposer l'image d'une certaine émancipation féminine. Parce que ce sont des femmes qui, dans un univers qui est en déclin, dans une humanité qui est en déclin et en proie à la destruction et à la destructivité, elles s'imposent et elles sont là pour assurer la relève. Donc toutes les femmes incarnent ça, y compris Rose DeWitt dans Titanic, puisqu'elle lutte contre le puritanisme, elle lutte contre les conventions morales et sociales, et pour ce faire, pour échapper au poids de la morale, qu'est-ce qu'elle essaie de faire? Elle essaie de se suicider. Et c'est dans elles sont agissantes en fait. Et là, effectivement. Lui, James Cameron, il n'impose pas de nouveaux moyens, il passe par des codes qui sont plutôt virils.
Et d'ailleurs, ça va même un peu plus loin, c'est-à-dire que dans Aliens, on se rend compte que l'ennemi, c'est la reine alien, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, l'alien était un xénomorphe qu'on pouvait imaginer être un mâle, et tout d'un coup, la reine qui se bat pour protéger ses enfants, tout comme Ellen Ripley se bat pour protéger Newt, sa fille de substitution, c'est aussi une figure féminine, donc c'est quelque chose qui revient très très fort.
Oui, non, mais
Jean-Baptiste, tout ça.
Oui, dans cette période reaganienne dominée par les têtes d'affiche qui étaient Stallone, Schwarzenegger, lui, James Cameron, il est arrivé et il a imposé comme ça des femmes fortes au cinéma. Une grande importance dans l'histoire du cinéma. Il leur a aussi donné des répliques fortes qui étaient généralement attribuées à des mecs comme Stallone ou Schwarzy. On a comme souvenir cette réplique dans Aliens, ne la touche pas, sale pute. Voilà. Et voilà, et pour la première fois, on voyait des femmes fortes au cinéma. Et je tiens à dire que si Cameron n'avait pas imposé ça, bon, dans Aliens, c'était Ridley Scott de base qui avait imposé Sigourney Weaver, mais lui, il l'a rendu beaucoup plus stallonienne, j'ai envie de dire, dans Aliens. Et si finalement, Aliens n'avait jamais été interprété par une femme, en l'occurrence Sigourney Weaver, et que là, aujourd'hui, on disait, on va refaire un remake d'Alien et ce sera la femme, ce sera une femme qui sera comme ça, au centre du film, les gens se diraient non, pas possible, etc. Alors qu'en fait, c'est possible et c'est ce qui a rendu possible James Cameron dans les années 80 et 90 avec Linda Hamilton, etc. etc. Donc il y a une grande importance dans l'histoire du cinéma pour les femmes aussi.
Myriam,
je vais juste dire tout de même, Linda Hamilton pour Terminator 2 a touché un cachet de 1 million de dollars, tandis qu'Arnold Schwarzenegger en a touché 16 millions. Ouais. Il y a quand même un grand.
Mais c'était 1 million par
minute. Tout pouvait pas se faire en un jour.
Voilà, attention, c'était.
Mais justement, sur cette idée de la femme forte qui est obligée d'adopter des codes de virilité très masculins, et on le voit dans d'autres films aujourd'hui, on est encore sur ce même schéma de la femme badass qui casse la tête à tout le monde, qui prend des armes, des épées. Est-ce que on n'a pas une difficulté dans le cinéma blockbuster à imaginer une femme forte qui soit autre chose qu'une femme combattante qui arrache la tête de tout le monde?
Mais finalement, dans True Lies, il avait un peu... voilà, il avait présenté une femme de manière assez différente, Jamie Lee Curtis, qui est un peu cruche au début du film et qui après devient une agent secret, femme fatale. Donc là, c'était pas vraiment la femme forte dès le départ dans True Lies.
Alors, on arrive au moment préféré de nos invités, particulièrement de Nico Pratt, qui se retrouve en PLS après chaque blind test. C'est le blind test Made in Blockbuster. Alors, James Cameron est passionné par les fonds marins, on l'a dit. Donc, on a décidé de vous faire un blind test spécial océan.
Sauvez Willy.
J'en étais sûr, je te l'avais dit avant.
Alors, attention, ça peut être un film, une série ou un dessin animé. Extrait numéro 1.
Le grand bleu.
Le grand bleu, ouais. Ça vite.
Voilà. Et après, il va dire qu'on fait des blind tests.
J'ai un peu honte d'avoir répondu le premier.
Mais non, mais c'est bien. C'est très, très bien.
Fan d'Eric Serra autour de la table.
Non, mais pas particulièrement.
Si, moi,
Non, mais Thomas, il faut pas répondre. C'est juste qu'il est vexé parce qu'il a pas répondu en premier.
Ça, c'est pas bon pour la street cred. Voilà.
Extrait numéro 2.
Sous l'océan.
Ah, la petite tirade.
Voilà, Nico.
J'adore ce jeu.
Parce qu'on s'est dit, on va lui en donner un facile.
Merci, c'est gentil.
Il y a François Barchefrière qui me regarde et il me dit, je suis consterné.
Non, je suis juste dégoûté. Non, mais moi, je le connaissais en VO. Mais
oui,
moi.
Ouais, c'est ça. Je trouve des raisons de ne pas avoir trouvé un premier. Pour
moi-même. Oui, vous la connaissez en VO, c'est ça, vous êtes puriste.
C'est
son suivant.
Ah. Alerte à Malibu.
Non.
Je tentais un truc un peu sale.
Non.
Waterworld. Orca.
Qui a dit
Waterworld?
François Barbier. Waterworld. Bravo. Bravo.
Je vais aller chercher celui-là.
Son suivant. Myriam.
Mais non, mais moi je.
Elle se tient les joues comme ça. Elle dit.
Oh mon Dieu.
Ne vous laissez pas tétaniser par la pression.
Tous ces nanars qui ont regardé cela.
Son suivant.
Flipper. Ça pourrait pas être Flipper le dauphin?
Alors,
les Shadoks.
Non, mais alors vous ne
mais
trouvez pas.
Mais ça date de quand ça? C'est quoi non,
mais,
ça?
Mais c'est incroyable. Vous ne trouvez pas même quand ils le disent dans la chanson.
En tout cas, Pono, le petit poisson.
En tout cas, ça s'appelle
Pogno.
Voilà, bonne réponse de nouveau de François. Pogno sur la falaise.
Pogno sur la falaise.
Oui,
mais
oui!
Oh ah, mais là, mais j'ai trop honte. Ah,
ouais, tu peux. Nous aussi.
Son suivant.
Les Snorkies.
Voilà, bonne réponse de Myriam. Voilà, les Snorkies. Et ben en fait l'important
j'adore
c'est d'être
ce
bon
jeu.
À un moment clé et c'était ce moment Myriam, bravo à vous. Alors on a gagné une chanson.
Cette émission prend l'eau.
très très bien.
Petit jeu de mots, c'est cool.
Vous savez qu'il y a un poste vacant à la bande originale à la rentrée, il faut venir.
Mais j'ai déjà envoyé mon CV, on m'a jamais répondu.
Alors on va maintenant faire une nouvelle pause musicale avec Tied Up Right Now du groupe australien Parcels. Alors ils s'étaient fait remarquer il y a exactement un an avec leur titre Overnight, produit par le duo français Daft Punk. Et ils reviennent cet été avec une musique toujours aussi groovy.
Thank you.
C'était Tied Up Right Now, le dernier titre des Australiens Parcells, et vous pouvez les voir en festival le jeudi 23 août au festival Le Cabaret Vert à Charleville-Mézières et le vendredi 24 août au festival Rock en Seine à Saint-Cloud, plage dans les Hauts-de-Seine. Alors on touche à la fin de notre émission. Alors j'ai envie de vous poser une dernière question, il faudra répondre rapidement parce qu'on est un peu pris par le temps. Les avatars suivants, est-ce que vous pensez que ça va encore être de nouveau un raz-de-marée au niveau du box-office, ou est-ce que quelque part on est désormais habitué et un petit peu blasé? Qui veut répondre?
Jean-Baptiste. Oui, moi je suis un peu frileux parce qu'il va y en avoir 5. Je me dis, est-ce que ça va pas être un peu beaucoup?
Trois seulement pour l'instant.
Ouais, enfin, ça va être échelonné.
Oui, mais c'est bien ça le problème. Moi, j'aurais aimé voir beaucoup plus de variété dans le futur cinéma de James Cameron.
N'oubliez jamais ce qui se passe quand on doute de James Cameron. Ça a été ça toute sa carrière sur Exactement. Alien, sur Titanic, sur True Lies, sur Terminator 2 et sur Avatar. Il nous donne toujours tort. Donc, a priori, pourquoi?
C'est comme ça que je l'ai terminé. Je vais dire, mais de toute façon, il nous a jamais déçu.
Il nous donnera tort.
Et on ouvrira le champagne.
Oui, on ouvrira le champagne.
Le fait qu'il y en ait plusieurs à venir, c'est quand même un univers distinct. Il va y avoir un par an, peut-être il y aura une pause de 2 ans à un moment donné, mais ça n'a rien à voir avec la dilution de l'attention qui a pu opérer par exemple chez Disney avec Star Wars, qui commence à se perdre un petit peu dans leur spin-off, reboot, etc. Je pense que ça fera toujours événement systématiquement.
Eh bien, je vous remercie. Merci pour ces commentaires, on restera là-dessus. Demain, on se retrouve pour parler du plus gros succès littéraire de l'histoire de l'humanité. On va parler de... la Bible. Je me suis dit, voilà, après tout, le livre qui a été le plus souvent adapté, pourquoi pas. Mais pour l'instant, on se retrouve avec vous, Dorothée Barba.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Dans le débat de midi, juste après le flash, on va faire un bilan de la première année d'Emmanuel Macron à la présidence. Vous savez qu'il va le faire lui-même à 15h devant le congrès réuni à Versailles. Ben, nous, on va le faire juste avant lui. Avec cette question qui est beaucoup posée, beaucoup rabâchée, mais qui mérite un examen précis et attentionné. Emmanuel Macron est-il le président des riches? Voilà, mesure par mesure, réforme par réforme, on va voir si sa politique bénéficie effectivement aux plus fortunés des Français.
Parfait.